d'ailleurs dans un instant avec toute l'équipe de Radio Foot International. Où que vous soyez sur la planète, merci de nous avoir écoutés. À Paris, il va être 18h10. Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et nouvelle semaine qui commence sur le 101.5 FM de Radio G. J'avoue, j'ai pas trop d'autres inspirations pour entamer l'entame de cette émission, sauf vous présenter bien évidemment le programme de cette semaine qui s'ouvre jeudi. Nous serons normalement avec nos amis du Quai, le CDN et peut-être même le CNDC, faut que je vérifie l'info. Mercredi, on sera avec Jean Luard, historien du Segrien, qui a fait un ouvrage sur le cheval en Haute-Anjou, les 300 ans de cheval en Haute-Anjou. Précisément, qui est complété d'une exposition sur le cheval, plus précisément au château de la Laurie, du côté de Segré. Demain, nous sommes avec les Folies. On a retrouvé notre partenariat avec les Folies Angevines, ça fait plaisir. On en avait un petit peu perdu le fil, quoique, quand même. Elles étaient souvent venues dans l'émission, mais là c'est bon, on a retrouvé le mardi régulièrement, tous les mois, pour venir parler de leurs actualités. J'ai mis un Z parce que ce soir, on va parler de Funzel. On sera avec Marion Fouy dans quelques instants, qui a fondé Funzel, qui est conceptrice de jeu, qui est venue avec une boîte en plus, c'est un escape game de la boîte, c'est un escape game, enfin il y a des nouveaux termes que je ne connaissais pas, qu'elle va pouvoir nous expliquer dans quelques instants. Bien évidemment, on va parler de jeu, donc on va s'amuser ensemble, on va peut-être même parler d'histoire, puisque il y a des thématiques. Je crois que la boîte est en lien avec la mythologie grecque, elle nous en dévoile plus dans quelques minutes. Et ce soir, parmi les nouveautés, nous on l'avait promis, beaucoup de nouveautés pour cette saison 2025-2026, on a Café Chololo en fin d'émission, le premier épisode d'une série sur l'histoire du café, de la caféiculture, si j'ai les bons termes. Et on a aussi, ça on l'avait un petit peu annoncé il y a une semaine, les charabias d'Aurélia. Bonsoir Aurélia.
Bonsoir.
La grande première du coup pour les charabias.
Tout à fait, j'ai un peu le trac.
Oui, mais moi aussi, t'inquiète. On a tous le trac, c'est normal, c'est le début de saison. Celles et ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, comment tu leur expliquerais d'un tout petit mot les charabias, qu'est-ce que c'est ?
Les charabias, c'est en fait une petite chronique sur les expressions françaises, en tout cas de la langue française, il y a un peu de canadien aussi.
Voilà, avec peut-être une accentuation, voilà, sans être dans la parodie ni la caricature, mais voilà, tu essaieras d'incarner ces accents. Ce sera autour de 18h35 avec toi, bien évidemment. Topette, c'est parti, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, le compte Instagram notamment, pour découvrir toutes les personnes qui passent dans cette émission. C'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Sidonie arrive à grands pas pour nous faire les flash infos, mais en attendant son arrivée d'ici quelques jours, peut-être une petite semaine ou deux, c'est la grande remplaçante de Nolwenn pour la saison 25-26. On se fait un premier podcast avec Colombo, le podcast que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio.
Salut monsieur, dame. Si vous avez choisi d'écouter ce podcast, c'est que vous avez déjà entendu parler de moi, ou plutôt de ma série. Quand je vois que je suis toujours diffusé plus de 60 ans après, je me dis qu'il y a forcément des choses qui font de Columbo une série culte. Je vous propose de replonger ensemble dans cette aventure pour en comprendre ou en revivre tous les secrets. Bienvenue dans le podcast Columbo.
Starring Peter Falk as Columbo.
Bon, il faut que je retrouve mes notes. Voyons, il y a vraiment trop de poches dans cet imperméable. Ça, c'est un œuf pour mon petit déjeuner. Vous en voulez ? Vous devriez. C'est excellent. Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Donc, suivant l'histoire, c'est en 1960 que deux romanciers ont publié une nouvelle dans un magazine. Attendez, j'ai noté l'histoire quelque part. Ah, là. C'était un meurtre où un mari tue sa femme en faisant croire à un cambriolage. Mouais bon, dit comme ça, c'est pas bien original. Celui qui mène l'enquête n'est pas encore moi. C'est un autre lieutenant de New York. Il avait déjà pas mal de similitudes avec le futur Columbo. L'idée est venue suite à la lecture du roman « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Pas mal comme référence. excusez-moi. Ça ne vous dérange pas si je fume ? C'est que de la radio, remarquez. Il faut juste que je retrouve mon cigare. Vous avez du feu ? Non ? Bon, ce sera pour plus tard. Ne vous inquiétez pas. Où en étais-je, moi ? Ah oui, les deux créateurs de la série. Ils réussissent à vendre leur histoire et à en faire un téléfilm qui sera diffusé aux États-Unis en 1960. Pour l'occasion, le lieutenant a pris mon nom, Columbo. C'était un policier très élégant. Ça n'a pas marché. L'audience n'est pas là, il n'y aura pas de suite. Mais bon, quand je dis « pas de suite », je parle à la télévision. Nos deux auteurs croient encore en moi, et c'est vers le théâtre qu'ils se tournent. Oui, vous avez bien entendu, le théâtre. Étonnant, non ? Alors, c'est toujours la même histoire, mais là ça marche. Un producteur est intéressé. Ça n'a pas été simple pourtant. Je laisse un des auteurs vous expliquer.
C'était une distribution difficile à gérer. Nous étions de jeunes auteurs sans réputation et personne n'était agréable avec nous. Les acteurs étaient très difficiles à vivre ou sinistres, voire condescendants envers notre manque d'expérience théâtrale.
En plus, celui qui jouait mon rôle n'était plus très jeune et il ne voulait pas apprendre le texte que les auteurs tentaient d'améliorer. Bref, la première de la pièce a quand même bien eu lieu en 1962 à San Francisco. S'ensuit une tournée de 25 semaines aux États-Unis et au Canada. Le public devient fan du policier, ce qui n'était pas prévu à ce point par les auteurs. Bon, du coup, comme la pièce marche, les deux auteurs retentent leur chance à la télévision. Universal accepte. Mais là, il y a un problème. Oh, juste un détail. Un détail important quand même. Voilà. Après la tournée de théâtre, l'acteur qui jouait Columbo est mort. Il fallait donc trouver un acteur qui lui ressemble. On cherche alors un acteur dans les 60 ans. Mais peu se bousculent pour ce rôle. Et puis, il y a moi. Peter Falk, dont vous entendez la voix française de Serge Sauvion, cloné numériquement. J'ai alors 41 ans. La série va enfin pouvoir commencer. À bientôt pour un prochain épisode de ce podcast dédié à Columbo.
Columbo, épisode numéro 1. Voilà, si l'épisode vous a plu, si ce podcast vous intéresse et que vous souhaitez en découvrir davantage, rendez-vous dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, c'est radio-g.fr-du-6 pour celles et ceux qui se posent la question. On nous pose souvent la question, voilà, c'est radio-g.fr. Et cette émission s'appelle Topette et maintenant on reçoit notre invité.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Marion Fouy, tu es conceptrice de jeux et fondatrice de Funzel. C'est comme ça que tu t'annonces, en tout cas, lorsque tu te présentes, que tu nous partages ton dossier de présentation de cette entreprise que tu as créée, Funzel, dont tu pourras nous dévoiler dans quelques instants l'origine du nom, même si j'imagine le pourquoi du comment, mais peut-être que je me trompe. Tu proposes tout un tas de choses. Alors, tu es conceptrice de jeux, bien évidemment. Le gros du gros, c'est ce que tu as ramené là sur la table du studio. Ce sont des boîtes, ce que tu appelles des Inkscape Games. Alors,
exactement.
Ce sont des boîtes qui sont fermées avec plein de décorations, des cadenas, des mécanismes. J'ai l'impression qu'il va falloir résoudre pour l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Très certainement une très belle récompense. Tu pourras nous dire d'ailleurs ce que tu mets dedans. L'idée, c'est de faire rayonner aussi le territoire angevin. Tu le proposes comme ça en tout cas, puisqu'il y a des thématiques angevines comme une Inkscape Game, une boîte sur la Seconde Guerre mondiale en Anjou, inspirée de faits réels. Comment tu as travaillé ? Ça aussi, ce sera des petits secrets que tu pourras peut-être nous dévoiler. Mais avant même de parler de Funzel ou de tous ces concepts que je découvre avec cette boîte, est-ce que tu peux peut-être nous parler de toi, ton parcours, comment on devient conceptrice de jeux ? Est-ce que ça a toujours été ton activité ou alors à un moment donné, il y a eu un tournant ? J'imagine pas qu'il y ait des bac pro conception de jeux. Comment on devient à ce niveau-là ?
Non. C'est toute une aventure en fait pour arriver aujourd'hui à Funzel, mais c'est surtout en fait une appétence à la base pour l'animation sociale et socioculturelle. Donc j'ai toujours créé des grands jeux animés, voilà, des parties de jeux, etc. Et du coup, je me suis quand même professionnalisée ensuite pour faire un DUT dans l'animation sociale et socioculturelle. Et en parallèle, en fait, j'ai toujours été aussi passionnée d'histoire et de géographie. Donc j'ai décidé ensuite de ce DUT de reprendre un master géographie, enfin valorisation du patrimoine et développement territorial. Et en fait, dans ce master-là, à l'époque, j'habitais à Limoges et j'ai aussi découvert les Terra Aventura, qui sont des geocaching, donc des chasses au trésor au niveau mondial même. Là, pour le coup, Terra Aventura, c'est au niveau régional. Et donc, voilà, j'ai un petit peu mis le nez dans les chasses au trésor, dans les jeux. Et j'ai toujours eu un peu cette envie de faire valoriser un territoire avec, du coup, un outil ludique, dont les chasses au trésor. Donc ça m'a toujours plu. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai avancé dans ma vie, j'ai fait de l'animation beaucoup, de la direction pédagogique. Après, je suis partie à Toulouse, je suis remontée à Nantes. C'est pour ça que le parcours est assez assez dense. Et en revenant à Nantes, j'ai repris après une licence pro pour être ludothécaire, qui est un petit peu bibliothécaire pour les jeux en fait. Et donc c'était hyper intéressant. C'était l'année Covid, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Et donc l'année Covid faisant, c'était compliqué de trouver un travail dans la ludothèque, puisque tout était un peu fermé, il y avait des réglementations, etc. pour l'accueil. Je suis revenue vivre à Angers, parce que je suis angevine de base, et j'ai trouvé un travail à Sortilège Angers, donc la boutique de jeux qui est rue de la Roue. Donc j'étais ludicaire là-bas pendant 3 ans et demi, et donc j'ai beaucoup eu d'attrait avec le jeu de société que j'avais déjà bien sûr développé avant, et surtout justement tous ces univers de jeux d'énigmes, jeux d'enquête, escape. Et l'idée c'était moi dans mon privé, je commençais à créer des jeux pour les potes, la famille, etc. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité après de quitter mon travail à Sortilège, de me dire je me lance dans mon projet entrepreneur, et puis de créer en tout cas mon entreprise ludique quoi.
Justement, Marion, alors c'est à la mode, je sais pas. En tout cas, il y a des adeptes de tout ça. Hein, je pense à la Chouette d'or d'ailleurs qui a été trouvée, ouais, la carte au trésor. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment un public pour tous ces jeux. Hein, ces jeux qui nous rappellent les plaisirs qu'on a, qu'on avait dans l'enfance et tout. Mais là, pour les adultes, pour les grandes personnes et aussi certainement pour les enfants, pour tout le monde. Exactement. En fait. Donc il y a un public pour. Alors maintenant, si professionnellement, économiquement, ça reste quand même quelque chose de niche plutôt. J'ai l'impression, on n'a pas des postes comme ça à chaque coin de rue. Il suffit pas de traverser la rue pour trouver un travail dans ce domaine-là. Du coup, c'est un peu aussi un pari, un défi.
Ouais, c'est un peu un défi ludique. Après, clairement, moi, j'ai un petit peu surfé sur l'ère de l'escape game. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années que ça existe. Hein, les salles, tout le monde a un petit peu fait ce concept. Et là, l'idée, c'était un petit peu de démocratiser en fait l'escape game et de le rendre aussi plus compact et plus mobile. Parce que l'idée, c'est un peu contraignant d'aller dans un escape game. Ça a son coût aussi. Et là, le but, c'est moi, cette boîte, je la prends chez moi et je peux faire découvrir en fait à des amis, à ma famille, un concept de jeu d'énigmes en fait. Et donc je trouvais ça vachement plus accessible, et en termes de cohésion, c'est vraiment incroyable.
Alors Funzel, ça c'est le nom de la société que tu as créée justement pour proposer tout ça, faire converger toutes les compétences que tu as développées depuis que tu es rentré dans la vie active et même un petit peu avant. Funzel, c'est quoi? C'est du fun et des puzzles?
Ouais, c'est pas mal.
Ça me fait penser à ça forcément.
Ouais,
est-ce que c'est le but?
Ouais, exactement. L'idée c'est puzzle, c'est vraiment l'idée du casse-tête en anglais. Hein. Et donc le fun, c'est vraiment cette idée un petit peu ludique et récréative. Et donc le mix des deux, en fait, je trouvais qu'il popait plutôt bien, et je suis rester sur ça, et un nom court, c'était facile pour tout le monde.
Tiens Aurélia, qu'est-ce que ça t'évoque là? Je te vois regarder, ah non c'est peut-être ta feuille que tu regardes, mais il y a la boîte derrière. Funzel, qu'est-ce que ça t'évoque ces univers-là?
Oui, ça m'évoque des énigmes un peu compliquées sur la logique, etc. Pas forcément des puzzles, enfin en tout cas des puzzles un peu en 3D où il faut de la manipulation, etc. Mais pas des puzzles classiques.
Ça a l'air de plutôt t'inquiéter, l'idée. La boîte, tu la regardes pas avec envie, hein. Tu te dis, oh là là,
Si, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans.
Elle a envie de savoir, évidemment. J'imagine que ça, c'est le but. Justement, est-ce que, au travers de Funzel, tes propositions s'adressent à tout le monde? Comment ça marche? Quelles sont les offres?
Oui, complètement. L'idée en fait de Funzel, c'est de diversifier l'offre et du coup d'avoir différentes propositions pour tout public, donc pour que ça soit pour les petits comme pour les grands. Donc ça dépend des boîtes. Là, par exemple, la boîte de démo que j'ai ramenée là sur la mythologie grecque qu'on a tous devant nous, celle-ci, elle est tout public. On peut la faire à partir de 8-10 ans, puisque forcément il y a des maths à l'intérieur, etc. Mais je reste à côté pour accompagner de toute façon les gens. C'est pour ça que ça ne va pas être trop dur. Il y a possibilité de la faire. Mais il y a d'autres boîtes. Par exemple, la deuxième boîte que j'ai créée sur les Les secrets de l'Anjou occupé. Celle-là, elle est à partir de 10 ans puisqu'elle est sur une thématique de la guerre, mais elle traite vraiment de la Seconde Guerre mondiale en Anjou, basée sur des faits historiques un petit peu méconnus d'ailleurs de l'Anjou, parce que étant passionnée forcément d'histoire, je me devais de faire une boîte en tout cas sur un sujet qui me passionne. Et donc l'idée, c'est aussi les gens apprennent un petit peu à l'intérieur de ces boîtes, et puis bah voilà, découvrent un petit peu une histoire qui est un petit peu un peu glauque en Anjou, bah de façon un peu ludique. Voilà, donc c'est vraiment d'apporter aussi aux gens de l'information derrière ces boîtes, quoi.
Bon, bah on va découvrir ces boîtes-là, justement. On va pouvoir faire un focus dans quelques instants sur la boîte démo que tu as ramenée. On va peut-être essayer aussi, plus ou moins en direct, enfin, je dis plus ou moins parce que c'est pas garanti qu'on réussisse à l'ouvrir entièrement. On fait juste une première pause musicale sur le 101.5 FM et je vous propose d'écouter un titre que j'ai trouvé, voilà, un peu au hasard, Rupert Holmes, ça s'appelle Escape.
I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada. Said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. Escape.
Escape de Rupert Holmes. Alors on a été un petit peu surpris parce que ça y est, avec Aurélien, on s'était pris de je sais pas comment dire, on était à fond dans les boîtes. On essaie de découvrir cette première boîte qu'on découvre ensemble avec Marion ce soir dans Topette.
Topette sur Radio G.
Ouais, ça nous a vite happé, comme tu le disais, Marion, effectivement. Cette boîte démonstration. Alors, je serais curieux de voir quoi. C'est pas une démonstration parce que déjà, en trois minutes, on a des éléments de compréhension, mais on n'a pas tout compris non plus. Il faut que tu nous la présentes, du coup. On parle de Funzel avec toi, hein, la société que tu as créée, justement, de jeux. Voilà, de jeux ludiques. Notamment, ces Inkscape Games. Hein, c'est ça le terme qu'on utilise,
ouais,
pour les,
ça, ouais,
désigner ces boîtes. Tu peux nous la présenter, peut-être?
Ouais, du coup, devant vous avez une boîte. C'est un cube, celle-ci. Sur la boîte de démonstration, donc elle est décorée plutôt de, enfin gravée même, avec des éléments aussi en relief sur la mythologie grecque, puisque le scénario initial est vraiment basé sur l'aventure de Thésée qui part en Crète se porter volontaire pour être plongé par le Minotaure, mais il tomba amoureux éperdument de Ariane qui lui donna une pelote de laine qui lui permit du coup de tuer le Minotaure et de sortir du labyrinthe. Donc ça, c'est un petit peu votre scénario de départ, et ensuite avec tous les éléments autour de cette boîte, donc la décoration et donc les éléments d'énigme en fait qui sont gravés et les éléments de labyrinthe, etc. Vous allez devoir essayer de trouver trois chiffres pour ouvrir le cadenas et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
J'imagine que le scénario n'est pas là que pour faire joli. Il y a peut-être des éléments déjà dans l'intrigue qui permettent de comprendre des éléments.
Peut-être.
Peut-être. Est-ce qu'on a que de la décoration aussi sur la boîte ou tout est utile? Comment tu agences tout ça?
Là, sur cette boîte-ci, tout est utile parce que du coup, c'est une boîte de démo. Donc, l'idée est vraiment de montrer un petit peu les mécaniques ludiques possibles. Par contre, sur la boîte sur la Seconde Guerre mondiale, il peut y avoir des éléments qui sont purement décoratif. Je sais que c'est très frustrant pour les gens, mais ça fait partie du jeu. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est jusqu'à quel point les gens peuvent faire une interaction entre leurs objets, qui sont des fois fascinantes et irrationnelles même, je dirais.
Aurélia, tiens, tes impressions, je t'ai vu jouer avec Clément, regarder un petit peu la boîte, ça te donne envie, t'as envie d'aller voir ce qu'il y a dedans, hein?
Alors oui, j'ai très envie. Et le fait d'avoir l'histoire de base et pas de fonctionnement ou d'être aiguillé directement, c'est intéressant parce que du coup, on part vraiment dans le flou et on découvre vraiment à fond tous les mystères de la boîte.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'informations données au départ des boîtes, mais c'est vraiment volontaire. L'idée, c'est vraiment de laisser aussi le jeu libre aux gens et d'interpréter et de eux-mêmes essayer de faire des choses, quoi. Donc,
On l'a survolé vaguement, la notion du public, des publics auxquels, ouais, tu t'adresses avec cette boîte. Du coup, c'est familial. Est-ce qu'il faut avoir un gros QI? Est-ce qu'il faut être... tu parlais quand même d'une limite d'âge par rapport aux mathématiques, mais ouais, à qui est-ce qu'on... C'est accessible à Aurélia et moi, par exemple?
Oh, complètement. En fait, en réalité, ça peut être accessible à tout le monde. En fait, ça dépend plus de la thématique et du temps de jeu et s'il y a de la lecture, etc. à l'intérieur. L'idée, c'est que moi, toutes les boîtes que je vais proposer, les différents Inkscape, ils vont avoir différents niveaux. Du coup, la prochaine boîte que je vais créer, justement, sera une boîte pour enfants. Donc forcément, il n'y aura pas de lecture, beaucoup plus de manipulation, de fouilles et d'observation. Et du coup, beaucoup moins de réflexion, ce qui est normal. Mais en fait, chacun a ses propres logiques. Donc quelqu'un pourrait être très fort en logique mathématique et quelqu'un d'autre très bon en fouille. Et l'idée, c'est justement la complémentarité des joueurs qui permet d'avancer dans ce jeu. Parce que tout seul, on peut vite bloquer et ça peut durer très longtemps.
Et est-ce que c'est un outil formidable justement pour renouer du lien entre les personnes et puis un petit peu reprendre le sens de le contact avec la réalité? On pense évidemment aux écrans, lâcher les écrans.
Ouais.
J'imagine que les jeux vidéo, c'est moins ta spécialité.
Ouais, je suis moins branchée jeux vidéo, même si j'aime beaucoup les jeux narratifs en jeux vidéo. Parce que, en fait, les jeux narratifs, on crée une histoire. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les boîtes, elles sont pas du tout digitalisées. L'idée, c'est de ne pas utiliser le téléphone portable pendant les temps de jeu. Après, ils peuvent utiliser la lampe torche ou des choses comme ça. Hein, y a pas de souci. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir d'écran et de fédérer les joueurs autour d'un objet, en fait. Et puis vraiment d'avoir cette sensation de toucher, en fait, de revenir sur un petit peu de l'essentiel. Fouiller, toucher, palper, ouvrir une boîte, toucher un papier journal, voilà, des choses qu'on fait de moins en moins, et c'est ça qui donne cette valeur à cette boîte, en fait, qui est un objet, quoi.
Est-ce que c'est le retour aussi que font les personnes qui, alors, pour les boîtes que tu proposes, ou plus globalement, au travers de tes différentes expériences dans l'animation de ces jeux-là, te font?
Ouais, complètement, ouais. Bah, c'est... les gens, généralement, ce qu'ils disent, c'est on n'a pas vu le temps passer, quoi. C'est vraiment cette histoire d'intemporalité quand on joue. Le jeu, ça passe très très vite. On est, comme tu disais, on est vite happé par le jeu. On a vite envie de réussir. On a envie de faire des choses. L'idée, c'est de vraiment de s'informer, de comprendre. En fait, les gens ont envie de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est vraiment l'information que les joueurs donnent les uns vers les autres. Et puis de voir comment les gens font coopération, en fait. Puisqu'au début, on peut vite comprendre que, et je l'ai vu plein de fois en jeu, des gens qui gardent une information dans leurs mains pendant 10 minutes. Et en fait, la solution est vraiment là, mais ils n'ont pas échangé, et du coup, ça prend du temps. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de se réunir, de se fédérer, de se collaborer ensemble autour de cet objet boîte, quoi.
D'un tout petit mot quand même sur les autres propositions que fait Funzel en plus de ces boîtes. Alors il y a la boîte de démo, ça c'est pour initier. Il y a la boîte sur la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
Chronexus. Chronexus, voilà. Et puis il y en a une troisième, je crois.
Ouais, c'est ça. Il y a eu le dernier atout qui a été terminé la fin août, qui est un mélange en fait entre le Cluedo, le jeu d'enquête que tout le monde connaît, et l'Escape Game. Donc le principe, c'est scénario de base, et donc les joueurs vont devoir aller interroger des suspects, et pour interroger les suspects, en fait, ils vont devoir déverrouiller leur boîte pour avoir accès aux témoignages et aux indices. Et donc, chaque boîte est immersive en fonction du personnage qu'ils vont interroger. Donc ça, c'est un jeu vraiment à jouer chez soi ou après en entreprise avec animation, quoi.
Et tu ne proposes pas que ça ?
Non, je fais aussi de la conception de jeux sur mesure. Donc là, l'idée, c'est vraiment tout type de jeu. Donc ça peut être chasse au trésor, j'ai organisé un rallye voiture, escape game sur un bateau, jeu de piste en ville. Enfin voilà, je fais de la conception, jeu d'enquête d'ailleurs dans une série. Enfin voilà, l'idée, c'est de répondre vraiment aux attentes et aux besoins de structure pour valoriser et puis mettre vraiment en avant leur entreprise, quoi.
Tiens, dans quelques instants, je serais curieux de savoir comment on se triture les ménages pour justement créer un jeu, comment ça marche. Est-ce qu'il y a des mécaniques bien précises? Est-ce que des fois c'est un peu difficile aussi? Est-ce que des fois il y a des flops? J'imagine qu'il faut tester au préalable. Et puis on pourra aussi parler de l'écran dans lequel tu exerces et que tu réalises ces boîtes. Pépina, qu'on connaît bien ici, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont passées à ce micro. Mais avant tout ça, on va lâcher la boîte, puisque du coup, j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas. J'ai vu des choses, mais faudrait que je prenne un peu plus de temps, et on va plutôt passer au charabia d'Aurélien. On revient avec toi, Marion, dans quelques instants.
Les charabia d'Aurélien.
Les charabia d'Aurélien.
Ça fait belle lurette que je me casse la tête pour vous dénicher les proverbes et les dictons les plus loufoques de France et de Navarre. Alors pour vous pondre ce charabia numéro 1, j'ai trimé d'arrache-pied sur un sujet qui nous a tous un jour fait suer. Le boulot, le turbin, le taf, la besogne ou le chafrave. Certains associent d'ailleurs l'origine latine du mot travail à un instrument de torture à trois pieux. Mais est-ce que vous êtes du genre à travailler comme un mercenaire ou à mouiller le maillot comme un forçat ? Évidemment, on a tous besoin de gagner notre pain, notre croûte ou notre beefsteak. Mais faites-vous partie de ces gens qui sont les premiers sur le pont pour aller turbiner, trimarder, bûcher ou décancher comme un chien ? Dans la région, la métaphore est aussi animalière. On bedasse comme un bedet, c'est-à-dire qu'on cravache comme un bedet du Poitou. Et parfois, il arrive qu'on se fasse vraiment avoir en travaillant pour le roi de Prusse, en arcandant pour rien, ou le plus souvent en étant payé au lance-pierre ou pour des clopinettes. Il n'y a d'ailleurs pas si longtemps, au Maghreb, les colons, qui exploitaient sans vergogne les ouvriers, utilisaient l'expression « faire suer le burnou ». Et le burnou, c'est en fait le long manteau de laine à capuchon que portaient ces travailleurs d'Afrique du Nord. Mais peut-être que vous ne travaillez pas en ce moment, ou que vous êtes à la retraite, ou que vous préférez juste travailloter sans trop vous fouler. Eh bien, en Mayenne, si votre collègue vous surprend un peu trop détendu à la machine à café, vous risquez de vous entendre dire « Mais qu'est-ce que tu bouines, Charline ?» Et si on vous accuse de peigner la girafe ou de pisser dans un violon, sachez que ce n'est pas vraiment un hommage à votre grande efficacité au travail. Chez nos amis chinois, au contraire, qui ont la réputation d'être des travailleurs acharnés, ne dit-on pas travailler comme un petit chinois ? On peut tâter des poissons dans l'eau boueuse, à savoir tirer avantage d'une situation chaotique mais sans en ficher une rame. Et chez les Québécois, quand on s'agite inutilement pour rattraper son retard, on a la broue dans le toupette. En gros, on a de la mousse de bière dans les cheveux. Alors, comme le chantait Henri Salvador en son temps, le travail, c'est la santé, et ne rien faire, c'est la conserver. Et pour finir, un petit dicton paysan bien de chez nous, qui ne fait rien mange le foin, qui travaille mange la paille.
Et ben voilà pour les charabias d'Aurélia, la première de la nouvelle saison. Les charabias, tout est dans le nom, j'ai envie de dire. Bouiné, en tout cas, moi, c'est une expression que je connaissais. Et puis, bravo pour cet accent québécois. Je t'attendais au tournant. On demandera à Charles, tiens, s'il a apprécié ou pas. Qu'est-ce qu'on bouine maintenant? Et ben, on va faire une nouvelle pause musicale et on vient avec Marion dans quelques instants. On écoute 1000 grammes de Pandore.
Qui je suis, mais je sais ce que je veux. M'a jeté dans la vie comme si j'étais une marionnette. Je sais pas ce que je fais ici, le travail est honnête. J'ai peur de finir docile, une femme lavant mes chaussettes. Je veux pas d'une vie normale, je vaux pas la chandelle. Je tomberai pas pour une dame, pour un je t'aime qui chanceux. Je suis peut-être alcoolique, je suis peut-être comme un prêtre qui bois le sang du Christ parce qu'il peut plus souffrir la messe. J'ai pas de plan de carrière, pas de larmes à terre. J'ai qu'une arme à terre pour les grabataires. Je vais finir comme un connard avec trop de grammes par terre. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier. Je suis un cadavre, la vie un calvaire. Je t'épargne les détails, Paris c'est trop cher. L'industrie se gave, font rien comme d'hab. Nouvel ordre mondial, non bourgeoisie mondaine. Bouger des montagnes, transformer leur haine. Je suis pas parisien, mais je montrais quand même. Mépris quotidien, ça me fait même plus de peine. Sont comme des chiens, leur ambition malsaine. Mes sons sont mal faits, mais pas contrefaits. Sont contents de faire des sous-sous sans rien faire. On n'a rien sans rien, non rien sans défaire. Le vide qui tient au profond de notre être. Peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier. Pour renverser l'enfant et devenir son père, faut songer la violence contre ceux qui la servent. Faut verser les phrases en oubliant les verbes que je jetais aux gens comme chrysanthème au cimetière. J'ai prié pour rien dans la langue de Molière, de laisser mon âme à des gens qui l'enterrent. J'ai été mauvais en me pensant complet. J'ai voulu faire le mec sans connaître mes plaies. Mais la vie est cruelle et le crédit mutuel peuvent attendre longtemps avant que pour je me repère. De toute façon j'aime pas les banquiers, leur manière de tous se croire super. À force de se sucer, je suis un artiste raté. Je suis même pas payé, qu'est-ce que je m'en bats les clanches qui finissent par me coster. J'ai pas attendu Dieu pour devenir qui je suis. C'est sûrement pas les hommes qui dicteront ma vie. Maintenant je suis plus gentil, t'as vu manger, compris. Je sais qui je deviens et vers où va ma vie. J'ai ouvert mon destin comme on étripe un porc. L'intestin du destin pour y forger de l'or. Voilà, j'suis en colère, c'est la fin des colliers. Comme une rage écolière qui m'a jamais quitté. Comme un souvenir amer, laissant sans vanité un vaniquer ta mère. Bien démonétisé, teasé au couloir et visé. Les brûlots étoisés, le ciel en les regardant brûler. En les regardant brûler. Peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Quitte à écouter 1000 grammes autant que ce soit bien fait. Je suis peut-être pas quelqu'un de mal, mais c'est sûr que l'homme est mauvais. Si Satan me regarde, qu'il me garde une place au banquier.
1000 grammes Pandore sur le 100.5 FM, vous êtes à l'écoute de Topette.
Topette avec Pierre Benoît.
On n'a toujours pas réussi, Aurélie, à ouvrir cette boîte. Hein. Tu te demandes ce qu'il y a dedans. Tu te demandes ce qu'il y a dedans et nous aussi. Tout le monde se demande ce qu'il y a dedans. Et on vous encouragera à aller profiter de cette démo. C'est la boîte Linscape Game de Funzel que tu as créée. Marion, justement, on a parlé des trois autres boîtes qui existent. Alors j'imagine que cette boîte démo autour de la mythologie grecque, elle n'est pas particulièrement en vente. On ne peut pas la...
Non, celle-ci, elle est pas en vente, hein, elle est pas en location. Celle-ci, elle me permet vraiment d'aller en salon et festival pour faire connaître le concept hein, d'Inscape Game, et puis que les gens ils puissent essayer surtout gratuitement. Et après, les autres boîtes, en effet, sont en location pour les particuliers, hein, pour la maison. Comme ça, vous pouvez prendre les boîtes d'ailleurs à Pépina et les prendre sur le week-end pour aller jouer chez vous où vous voulez d'ailleurs. Hein. En vrai, c'est ça la mobilité et la flexibilité de Funzel. Et puis après, moi, j'interviens aussi en entreprise pour les team building, généralement. Donc l'idée, c'est que, par exemple, les secrets de l'enjeu occupé, donc la boîte sur la Seconde Guerre mondiale, je l'ai en 5 exemplaires. Et donc l'idée, c'est pour faire jouer 25 personnes en simultané. Et du coup, même les gens peuvent se challenger un petit peu, quoi. Donc ça rend un petit défi supplémentaire, en fait, au jeu. Pareil, le Chronexus, il y a 15 boîtes. Donc là, on peut jouer quasi jusqu'à 90 personnes en simultané. Plutôt un petit format court sur des réceptions ou des séminaires. Et pour le Cluedo Inscape Game, on est vraiment sur un jeu à 30 personnes que j'anime, mais que par contre les particuliers peuvent aussi prendre en autonomie, puisque à chaque fois il y a la règle du jeu, l'inventaire du jeu et bien sûr les indices et les solutions qui sont données avec, quoi.
Ça, c'est important de le préciser. Hein. Du coup, les boîtes sont pas à vendre, en fait. Hein. On peut pas acheter une boîte. C'est pas comme un jeu de société.
C'est pas commercialisé, ouais. Voilà. Exactement. En fait, ce serait trop compliqué de commercialiser parce qu'il y a trop d'objets, il y a trop de choses. Ça coûterait très cher à l'achat. Et en fait, aussi, le principe de ces jeux sont éphémères, en fait. Donc, une fois qu'on termine ces jeux, on va jamais les refaire. Comme les jeux de société, pour ceux qui connaissent les Unlock, on a tous acheté des boîtes d'Unlock et après, on ne sait plus quoi faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment je loue et après, j'ai plus besoin de l'avoir à la maison. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça le concept, évidemment. Exactement. D'ailleurs, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs boîtes à disposition pour satisfaire les personnes qui ont beaucoup apprécié à jouer à une des boîtes. On voulait aussi parler de Pépina. On va parler de la conception. Je voulais parler de la conception, okay, quand même. Comment ça marche, la mécanique de conception, du coup? Est-ce que tu reprends des choses qui sont un peu toutes faites à côté, que tu réadaptes et que tu rescénarises? Ou alors, il y a des mécaniques que tu maîtrises très bien et que c'est un secret bien gardé?
Ouais, il y a un peu de tout, hein. Après, clairement, je perds vraiment des points de santé mentale, hein, quand je l'ai fait. Mais l'idée, c'est déjà de diversifier les mécaniques ludiques à l'intérieur. Donc, c'est d'avoir, par exemple, un peu de fouille, un peu d'observation, un peu de réflexion. Vraiment d'avoir des mécanismes un peu ludiques différents. D'avoir toujours un petit effet waouh aussi à l'intérieur. Donc, le petit truc qui est un peu caché, le petit mécanisme qui va se débloquer, etc. Et après, en termes d'inspiration, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, hein, bien sûr. Après, il y a aussi le fait que je joue beaucoup à des jeux de société, que j'ai fait des escape games, que je fais des chasses au trésor, que je lis. C'est vraiment un mélange de cette culture qui aujourd'hui me permet d'appréhender avec une thématique, en me disant par exemple la prochaine boîte, j'ai envie de la faire sur la magie, mais un peu vintage, Houdini, etc. pour les enfants. Et donc l'idée, ça sera vraiment de partir sur de la manipulation, par exemple des choses sur les couleurs, etc. Donc j'ai des idées, après je vais les concrétiser. Des fois quand je les concrétise, ça marche pas du tout, faut pas vous cacher. Mais quand ça marche, c'est hyper chouette, et quand ça marche pas, on refait différemment. Et l'idée, c'est comme ça, un petit peu d'avancer dans sa boîte. Une fois qu'elle est terminée à peu près, je la mets en test, toujours, je teste les jeux. Là par exemple, le Cluedo, on l'a testé à Pépina fin août avec les copains de Pépina que je remercie d'ailleurs. Donc on était une vingtaine de personnes à tester les différentes boîtes, et après on a fait un petit retour du jeu, et c'était très chouette. Et du coup les gens, c'est hyper intéressant d'avoir du recul déjà sur ce qu'on fait, et puis d'appréhender aussi la difficulté de jeu que moi je n'ai pas. Enfin, c'est clairement moi la boîte, je la résous en 3 secondes, celle-ci, la mythologie, mais c'est normal, c'est, je l'ai faite.
Secondes, c'est beaucoup d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. donc l'idée, c'est vraiment de créer les boîtes de A à Z, d'essayer d'incorporer différentes mécaniques ludiques, différents types d'énigmes, et puis bien sûr de les faire tester pour réajuster derrière pour qu'elles soient au top, quoi.
Tu estimerais à combien de temps à peu près le temps de création entre le moment où tu as une idée, ou alors qu'on te suggère une idée, ou qu'on te passe une commande et le moment où ça se concrétise. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois, ouais. Des fois c'est variable aussi.
Ouais, c'est plutôt en... Alors des fois je vais avoir des idées comme tout le monde, ça va arriver sous la douche ou j'en sais rien quoi, que je vais pouvoir noter, mais des fois ouais, ça prend plusieurs semaines hein, clairement le temps de réfléchir, créer, commander ce qu'il faut s'il y a besoin de pièces spécifiques, monter la boîte ensuite, puisque après du coup généralement les boîtes elles sont en bois, enfin elles sont quasi toutes en bois et elles sont gravées. Moi j'utilise la laser cut qu'il y a à Pépina, mais la laser ça prend du temps, c'est des fichiers à traiter, etc. Donc il y a quand même pas mal de travail en production. Donc voilà, en fait c'est vraiment de passer sur ces étapes de 1 la création, 2 la production et 3 le test. Bah ça, ouais, on parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon le contexte quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose en tête, dans ta tête, Marion, en ce moment? Est-ce qu'il y a un nouveau concept de jeu, une nouvelle boîte en préparation?
Ouais.
Ou tout le temps, ça se trouve?
Ouais, tout le temps. Ouais, non, je m'arrête jamais. En termes de créativité, c'est cool. Donc ouais, la prochaine boîte sera une boîte pour enfants, vraiment à partir de 7 ans. Du coup, pour, je pense, la fin d'année. Normalement, je serai sur le marché de Noël, donc les gens pourront me retrouver sur le marché de Noël au Mail pour pouvoir déjà tester la boîte. Et il y aura des soirées aussi organisé avec les boîtes et ensuite possiblement faire autre chose au niveau de, ouais, peut-être de l'Anjou en général. Je connais d'autres personnes passionnées par le patrimoine sur Angers qui font aussi des chasses au trésor. Je pense notamment à Caroline Durbawiz qui fait des jeux de piste d'Angers. Donc du coup nous deux on aimerait beaucoup travailler ensemble, faire une collab assez intéressante et sur notre territoire il y a vraiment moyen de faire des choses.
Et on peut pas savoir ce qu'il y a dans la boîte?
Si, il y a moyen.
dans cette boîte-là ou dans toutes les boîtes?
Ah non, que celle-ci.
On peut savoir là maintenant?
Ouais, je vous l'ouvre.
Tu veux nous l'ouvrir?
Ouais.
Ah bah vas-y, en 3 secondes, t'as promis.
Bah oui, bah je veux.
C'est parti. Alors regarde pas. Si, on peut regarder. Ah bah non, t'as le code, elle a le code directement, elle fait pas l'énigme évidemment. C'est pour ça que ça prend pas beaucoup de temps pour ouvrir la boîte. Bon, on dira pas le code en tout cas, j'imagine. Voilà, on garde les chiffres confidentiels. La boîte s'ouvre. C'est peut-être pas le bon code, si. Si, c'est bon, ça s'ouvre. Tac. Et à l'intérieur, alors Aurélia, je te laisse regarder. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ah oui!
Un crâne.
On a un crâne de... Minotaure. De Minotaure, bah effectivement. Et puis une carte de visite, du coup, Funzel. Avec, j'imagine, dessus toutes les informations pratiques,
exactement.
Marion, mais que tu vas pouvoir donner à nos auditeurs, auditrices. Peut-être les tarifs, ou en tout cas, où découvrir Instagram, YouTube, TikTok.
Ouais, carrément.
Ça marche où, Funzel?
Funzel, ça marche beaucoup sur Insta. LinkedIn pour les pros, Facebook aussi. J'ai pas encore tenté le TikTok. Peut-être un jour je passerai le cap. Donc ouais, les réseaux sociaux forcément à fond. Puis après vous pouvez me voir dans tous les salons ludiques en juin hein, déjà. Donc normalement je traîne pas mal là-bas et ça peut m'arriver aussi d'aller faire des soirées bar à jeux, les Caspions, boutique de jeux Sortilège, etc. Donc voilà, sur plusieurs endroits en tout cas.
Oui, j'imagine que tu n'es pas une inconnue auprès de la communauté et du public déjà averti sur le sujet de ce type de jeu. Pépinade, un tout petit mot quand même avant de se quitter.
Ouais.
Super, expérience.
Ouais, incroyable, c'est vraiment un lieu créatif et avec une effervescence qui est vraiment incroyable. Voilà, on est 60 résidents avec tous des métiers différents. On s'apporte autant que on peut partager nos problématiques d'entrepreneurs puisqu'on est solo entrepreneur et c'est quand même une problématique en lui-même puisque comment sortir de la solitude quand on est une personne dans son entreprise. Et puis en fait on peut aussi se donner des coups de main incroyables. Moi j'ai la maroquinière qui m'aide à faire des énigmes sur du cuir, l'autre qui peut me créer des trucs en bois en menuiserie. Enfin voilà, c'est vraiment top. Et puis et le projet est porté par trois gars qui sont assez fantastiques. Donc c'est un super lieu. Si vous avez l'occasion de venir pour des portes ouvertes ou autre chose, ou même si vous voulez m'appeler et venir boire un café, c'est avec grand plaisir.
Voilà, j'ai essayé de retrouver le podcast où Antoine était venu dans Topette l'an passé, la saison passée, ou peut-être même il y a deux saisons, ça passe très vite, nous présenter Pépina. Voilà, Aurélia, je sais pas si tu connaissais Pépina.
Oui, je connaissais.
Voilà, tu n'auras pas besoin d'écouter le podcast. Tant pis, je voulais te faire écouter le podcast. En tout cas, merci beaucoup Marion. Tu nous tiens informé de tes actualités concernant Funzel. Surtout, c'est avec Urbawizel, Funzel.
Peut-être
qu'il y a des choses
là
à créer avec Caroline. Et puis, bon courage pour les prochaines boîtes. Bon courage pour le développement de tout ça. Nous, on se retrouve demain avec les Folies en juin. On va reparler d'actualités culturelles. Mercredi, on est avec Jean Luard. Et jeudi, on est avec le Quai. Et ce soir, on se quitte avec une nouveauté. On s'intéresse à Café Chololo. On s'intéresse plus particulièrement à la légende du berger Caldi. Prenez soin de vous, à demain, 18h10, et topette.
Chaque tasse de café regorge d'histoires merveilleuses. Découvrez un univers fascinant à travers le partage de l'immense savoir de producteurs rencontrés aux quatre coins du monde par Café Chololo. Plongeons d'abord au cœur de la légende fantastique de la découverte du café. Nous nous rendons en l'an 800 dans les hautes montagnes d'Abyssinie, en Éthiopie. Un berger du nom de Caldi fait paître paisiblement son troupeau de chèvres. Les sentiers sont escarpés et le paysage féerique. Tantôt le soleil resplendit, tantôt il disparaît derrière une mer de nuages. Les arbres de toute taille se chevauchent et s'entremêlent. La forêt grouille, chaque centimètre carré regorge de vie. Soudain, Caldi s'aperçoit que quelques-unes de ses chèvres ont mystérieusement disparu. Intrigué, il s'enfonce plus en avant dans la forêt, dans des terres encore inexplorées. La taille anormalement gigantesque des feuilles l'impressionne. Malgré l'épaisseur de la végétation, le chant mélodieux de la forêt l'encourage à avancer pour retrouver ses bêtes. Les heures passent. Subitement, il aperçoit une agitation insolite dans les branchages. Qu'est-ce donc qui remue ainsi dans le lointain ? Il s'approche et tous ses yeux ébahis, ses chèvres se livrent à une danse frénétique. Elles caracolent, tournoient, jouent, sautent de branche en branche, emportées par une énergie incontrôlable. Caldi, abasourdi, observe prudemment la scène. Il remarque qu'elle se délecte de baies rouges avec un enthousiasme contagieux. Jamais le berger n'avait assisté à un tel spectacle. C'était comme si la nature lui révélait un grand secret. Excité par cette découverte, Caldi attrape sa machette et, d'un geste vif, sectionne une branche pleine de ses baies énigmatiques. Sans perdre une seconde, il reprend joyeusement le chemin du village avec son troupeau qu'il a du mal à canaliser. Après avoir examiné ses cerises rouges, le chef du village, intrigué, en prépare une décoction. Pour cela, il sépare de la main le fruit rouge des deux petites graines qu'il contient. Puis il les recouvre d'eau chaude. Ne la trouvant ni savoureuse, ni excitante, ni dotée de quelconque pouvoir magique, le chef du village jette au feu le reste de la boisson. Au moment où Caldi s'en alla chez lui, épuisé de cette journée rocambolesque, une odeur inédite et enivrante embauma la pièce. Le berger fut rappelé pour partager le premier café de l'histoire. Ce petit fruit rouge, révélé par une nature généreuse, allait révolutionner les modes de vie, inspirer les esprits et parcourir le monde entier, comme nous le verrons dans le prochain épisode.
À bientôt pour de nouvelles aventures avec Café Chololo.
Les bras s'en mêlent.